Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup. C'est un plaisir de retrouver le public fidèle des cafés scientifiques neuchâtelois après la pause estivale qui, j'espère, a été profitable à chacune et chacun d'entre vous. En cette rentrée d'automne, je voudrais encore rappeler que 2015, eh bien, c'est l'année anniversaire des 10 ans des cafés scientifiques neuchâtelois. Et si je le reprécise aujourd'hui, c'est parce que nous fêtons encore, non pas un, mais deux jubilés à l'occasion de cette discussion de ce soir. En effet, cette période marque tout d'abord les 50 ans du Centre d'hydrogéologie et de géothermie de l'Université de Neuchâtel, d'où le titre du café scientifique de ce soir, qui a un rapport avec l'eau, évidemment, vous l'aurez deviné. Et nous avons deux représentants de ce laboratoire, à tout seigneur, tout honneur, qui sont messieurs les professeurs Unkeler et Brunner, qui sont ici avec nous ce soir, donc à l'occasion de ces 50 ans du Chine pour les intimes. Mais c'est aussi ces jours-ci qu'on fête un autre anniversaire, celui de l'Académie suisse des sciences naturelles, dont vous avez peut-être déjà pu découvrir l'événement qui marque sa tournée à travers la Suisse. Ce sont les trois polyèdres qui se dressent actuellement sur la place du port de la ville de Neuchâtel, ici à côté, à 2 minutes d'ici. Cette exposition du bicentenaire comprend donc ces polyèdres et elle s'accompagne aussi de plusieurs événements régionaux, dont ce café scientifique. Voilà, tout le programme se trouve sur Internet. Ça s'appelle recherche-live.ch. Voilà, si vous voulez tout savoir sur les festivités de ce bicentenaire de l'Académie suisse des sciences naturelles sur la terre neuchâteloise. S'agissant du thème de ce soir, micropolluants au robinet, à votre santé. Bien sûr, un petit brin d'ironie pour attiser un peu la curiosité. Je vais tenter pour vous une première définition des micropolluants que, bien sûr, nos spécialistes ici présents pourront préciser après la discussion. Ce qu'on entend par micropolluants dans un sens très large, ce sont des résidus de médicaments ou de pesticides qui sont par exemple utilisés dans l'agriculture. Et ce qui fait le point important de la définition des micropolluants, c'est la concentration. On parle de microgrammes de substances par litre, voire de nanogrammes par litre. Mais ces dilutions, aussi importantes soient-elles, sont suffisantes pour être détectées avec les appareils dont on dispose aujourd'hui et peut-être dont on va parler au cours de cette discussion ce soir. Micropolluants, on fait tout de suite référence à la chimie, à l'industrie chimique. Il faut savoir que dans l'Union européenne, on répertorie plus de 100 000 substances chimiques susceptibles de générer des micropolluants. 25% d'entre elles sont utilisées dans la synthèse d'autres produits chimiques, 14% sont des agents colorants, 8% des substances photochimiques et enfin 6% de cosmétiques. Le reste, substances diverses. Et tout ceci sans compter les produits phytosanitaires, donc de protection des plantes et des cultures, qui ne sont pas répertoriés dans cet inventaire. C'est dire la complexité des sources des micropolluants. Le plus embêtant dans tout ça, c'est que les stations d'épuration n'arrivent pas à les éliminer. Alors on les retrouve fatalement dans l'eau potable. Mais sont-ils dangereux pour autant? Leur présence est-elle une fatalité? Nous tenterons d'en savoir plus à ce sujet avec notre 4 intervenants que j'invite en 2 mots à se présenter et dire à quel titre ils sont ici ce soir. Je vais peut-être directement commencer par M. Benoît Ferrari.
Eh bien, bonjour à tous, merci pour cette invitation. Donc, je suis Benoît Ferrari, je travaille au centre Ecotox, qui est un centre qui est dédié à faire le lien entre la recherche et puis donc les personnes qui interviennent directement sur l'environnement. C'est un centre également qui fait de l'information et qui fait des formations aussi pour les professionnels. Et donc notre domaine, c'est l'écotoxicologie. Donc en 2 mots, c'est l'étude des effets des contaminants ou des micropolluants, puisqu'il s'agit de ça ce soir, sur les organismes vivants dans les écosystèmes. Donc là, on ne parle pas de santé humaine, on parle vraiment de la santé des écosystèmes. Voilà.
Merci beaucoup. Pierre Studer.
Merci bien. Bonsoir à tous. Mon nom est Pierre Studer. Je travaille à l'Office de sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires à Berne. C'est un office fédéral. Dans cet office fédéral, au niveau de la sécurité alimentaire, on essaye de réglementer tous les aspects qui pourraient poser un problème pour la santé des consommateurs et aussi tous les aspects tromperie, à savoir quand est-ce qu'un produit est mis sur le marché et ne répond pas forcément aux attentes des consommateurs. Je suis responsable dans ce cadre-là de la législation sur l'eau potable, mais également de l'eau embouteillée, les eaux minérales naturelles, les eaux de source qui sont commercialisées, et puis aussi les boissons alcooliques, mais ça c'est un autre chapitre dont on ne parlera certainement pas ce soir. Enfin voilà, tout ça pour vous dire que du côté de Berne, on fixe la législation notamment sur l'eau potable. Cette législation est reprise par les cantons. La Suisse compte 20 laboratoires cantonaux qui sont chargés après de l'exécution de cette réglementation. Et ce sont les cantons qui envoient des inspecteurs, notamment des inspecteurs de l'eau, pour vérifier la mise en œuvre de ce qui est proposé à Berne et voir si la qualité correspond effectivement aux exigences légales. Je reste là pour l'instant.
Daniel Unkeler.
Bonsoir à tous. Je suis Daniel Hunkel, le directeur du Centre d'hydrogéologie et géothermie. C'est un grand plaisir que vous êtes là aussi lors de notre 50e anniversaire. Alors, notre centre est le seul centre de recherche dans le domaine de l'eau souterraine en Suisse, avec à peu près une cinquantaine de personnes qui travaillent en Suisse, mais aussi au niveau international. Et vu que vous pouvez probablement presque tous aussi de l'eau souterraine, alors 80% de l'eau potable en Suisse est de l'eau souterraine. C'est clair, ce sujet qu'on discute ce soir, c'est quelque chose qui nous intéresse, qui nous touche, qui est important pour nous. Dans mon groupe de recherche, plus particulièrement, on s'occupe de la chimie de l'eau souterraine. On s'intéresse surtout aussi sur la dynamique de ces substances, comment ils voyagent à travers le milieu souterrain, est-ce qu'ils dégradent, est-ce qu'ils ne dégradent pas, est-ce qu'ils persistent pour des dizaines d'années ou même plus, où est-ce qu'ils vont finir, est-ce qu'ils vont vraiment finir au robinet, comme on va peut-être en discuter ce soir.
Et enfin, Philippe Brunner.
Merci beaucoup et bonne soirée. Je m'appelle Philippe Brunner, je suis aussi professeur en hydrogéologie comme Daniel Hunkeler. Je suis ingénieur de base, j'ai étudié à l'ETH à Zurich et j'ai aussi fait ma thèse à l'ETH, mais j'ai travaillé en Chine et j'étais concerné aussi avec une pollution, c'était la pollution du sel. J'ai regardé des régions où le sel a pollué les ressources d'eau. Après ma thèse, je suis allé en Australie pour simuler et étudier les interactions entre les nappes et les rivières. Et avec cette thématique, je suis venu à Neuchâtel et depuis 2012, je suis professeur ici. Et dans mon groupe de recherche, je travaille souvent toujours sur les interactions nappes et rivières. Je suis plutôt focalisé sur la quantité d'eau et ses échanges. Alors je suis peut-être une anomalie par rapport à ces trois messieurs ici qui sont concernés avec la qualité. Mais moi, j'arrive à simuler les chemins d'eau et ses interactions entre les eaux de surface et le sous-sol, qui est très important pour comprendre comment ces micropolluants se distribuent dans l'environnement.
Merci beaucoup pour ces présentations. Donc on le verra au cours de cette discussion, notre eau potable, c'est quelque chose de fragile, c'est quelque chose dont il faut prendre soin. On a pu s'en apercevoir cet été, c'est pour ça que je ne peux pas m'empêcher de ne pas poser la question de revenir sur l'affaire du Locle de juillet dernier. Est-ce que, on a des spécialistes sous la main, est-ce que vous pouvez nous résumer maintenant que l'affaire est à peu près terminée? Ce qui s'est exactement passé, quelles substances ont été en cause dans les cas de gastro-entérite qu'on a déploré au Locle, et puis surtout, comment en est-on arrivé là? Je crois qu'il y avait une faute du côté des orages, si mes souvenirs sont bons. Alors, je ne sais pas qui veut se lancer dans cette première interpellation avec l'actualité. Ouais.
Je dois dire, je n'ai pas encore relu les derniers rapports sur ces questions, mais c'est clair, ce n'était pas une affaire chimique dans ce cas-là. Mais c'était vraiment lié à la microbiologie, à une pollution microbienne. Et comme Igor a déjà dit, c'est peut-être aussi lié aussi ce que nous attendons avec les extrêmes climatiques qui deviennent de plus en plus nombreux, que justement des extrêmes des événements extrêmes au niveau précipitation peut après faire des connexions au niveau de cheminement de l'eau qui sont normalement pas là et entraîner après des substances à un endroit ou en l'occurrence des bactéries où on ne souhaite pas les avoir. Et ça, c'est quelque chose, même si on parle aujourd'hui de micropolluants, c'est pas oublié aussi à l'échelle mondiale. Et la microbiologie, ça reste une affaire très importante. Mais je pense que ça montre aussi l'exemple. Assez souvent, en Suisse, on prend pour acquis qu'on a une qualité de l'eau irréprochable, qu'il ne faut pas trop réfléchir, peut-être, et c'est garanti. Mais ça nous rappelle et interpelle de nouveau qu'il faut rester vigilante par rapport à ces problématiques.
Monsieur Pierre Studer, je crois que vous vouliez ajouter quelque chose.
Merci bien. C'est vrai que le cas du Locle nous rappelle que justement la microbiologie est un des facteurs qui est assez essentiel au niveau de la qualité de l'eau. On ne va pas forcément en parler ce soir, mais c'est vrai que les diarrhées à travers le monde tuent énormément de monde encore à l'heure actuelle. Il y a énormément d'endroits où les personnes n'ont pas vraiment accès à de l'eau potable selon la définition que l'on a de l'eau potable. Et c'est vrai que ça reste un problème assez lancinant, à tel point qu'en fait, les prochains buts du millénaire, les buts de développement durable du millénaire, enfin, les buts de développement durable qui succéderont aux buts du millénaire, comporteront aussi un but dans le domaine de l'eau et de l'assainissement, sachant que, justement, il y a encore 2 milliards de personnes qui n'ont pas forcément accès aux toilettes et qu'il y a plus de 700 à 800 millions d'habitants qui n'ont pas forcément d'eau potable. Bien qu'on soit en train de réviser aussi cette définition de l'eau potable, simplement l'accès à l'eau ne suffit pas. J'entends, comme ça a été démontré au Locle cet été, c'est vrai qu'un certain nombre de critères de qualité doivent être remplis pour pouvoir vraiment parler d'eau potable. Et puis ce que je voudrais dire, c'est qu'en fait ici dans la salle, il y a aussi l'inspecteur des eaux du canton de Neuchâtel qui lui connaît l'affaire par cœur au niveau du Locle. Si vous voulez en savoir plus, je pense que Jean-Pierre Girard serait prêt à en parler. Et j'aimerais aussi signaler qu'en fait, au niveau de la conférence de presse qui a été donnée après cet événement, Viteos a publié un dossier qui est très complet sur ce qui s'est passé et comment est-ce que des eaux usées et des eaux de ruissellement sont arrivées à contaminer un réservoir tampon d'eau qui avait été traitée et puis après qui a été distribuée via deux autres réservoirs sur les hauteurs du Locle à toute la population du Locle. Et là, c'est vrai qu'en quelques heures, des centaines de personnes ont été affectées. Et ça nous rappelle justement qu'il faut être vigilant avec l'eau.
Merci beaucoup. Alors, c'était juste un préambule, parce qu'effectivement, on n'est pas dans le domaine des micropolluants, mais je pense que c'était nécessaire pour nous mettre l'eau à la bouche, si j'ose l'expression. Donc, un autre thème du jour, on peut y revenir maintenant. Les micropolluants, on ne le savait pas quand on préparait ce programme l'automne dernier, mais ils sont pleinement dans l'actualité, au niveau de la recherche aussi, puisque le 3 septembre dernier, les AVAG, qui est une station fédérale d'études de l'eau, organisait une journée d'information sur ce problème. Et le journal Le Temps s'en est fait l'écho dans son édition d'hier, sur une pleine page. Ce qui m'a bien aidé pour la préparation de ce questionnaire. Alors, tout d'abord, pour bien cerner le problème, et là je me tourne vers Benoît Ferrari, qui sera l'écotoxicologue de service ce soir, quand on parle de micropolluants, qu'est-ce que c'est ? Si vous pouvez nous résumer de quelle famille de molécules on parle et ce qui se cache derrière cette vaste définition.
Alors, je vais être provoquant peut-être. C'est tout ce qui n'est pas macropolluant, on va dire.
Mais encore.
Donc, vous savez que l'industrie, que bon nombre de recherches se font sur la synthèse de produits organiques ou d'extraction minière pour rester vers les métaux. Donc là, on est vraiment dans cette catégorie-là, c'est-à-dire qu'on couvre à la fois les métaux d'un côté, les organométalliques un petit peu, donc comme le mercure par exemple, ou alors les produits purement organiques. Et donc effectivement, on parle beaucoup de pesticides, on parle beaucoup de produits pharmaceutiques. Alors ça en fait partie, mais il y a aussi d'autres contaminants. Mais je crois que vous en avez dressez déjà une liste dans votre introduction. On ne peut pas faire le tour, hein, puisque comme vous avez dit, il y a plus de 100 000 substances qui existent. Donc 100 000 substances avec des catégories, effectivement. Mais ces substances-là, elles sont utilisées. Donc elles sont utilisées soit industriellement, soit vous tous les jours dans les cosmétiques, soit en vous soignant, soit en nettoyant, soit en peignant aussi les façades par exemple. Et tout ça va subir donc des transformations, que ce soit vous pour les produits pharmaceutiques par exemple, ou alors en nettoyant et puis ensuite en rinçant bien abondamment avec de l'eau et tout ça part dans les réseaux d'assainissement. Et on les retrouve forcément quelque part, puisqu'elles ressortent quelque part. Donc effectivement, on peut atteindre les écosystèmes, les différents écosystèmes, qu'ils soient aquatiques. Et j'aimerais rajouter aussi les écosystèmes terrestres et puis donc l'air aussi par le transport. Donc on est vraiment dans tous ces compartiments et il y a des échanges qui se font entre ces différents compartiments. Donc on est toujours sur ces aspects aquatiques, parce que c'est un récepteur extrêmement important et pour la vie et pour notre propre santé, notre vie, mais il ne faut pas oublier les autres. Et j'attire votre attention aussi que cette année, c'est aussi l'année internationale des sols, donc il faut bien le préciser, et donc il y a des tas de choses qui sont faites dans ce cadre-là aussi pour montrer que le sol est très important. Et on le sait bien au niveau de l'agriculture, puisque ça nourrit une bonne partie de la planète, effectivement. Donc les micropolluants, c'est un peu toutes ces catégories-là par rapport aux macropolluants qui, eux, concernent plus donc, tout ce qui est matière organique, tout ce qui est particules en suspension, par exemple, ou alors donc, les nutriments tels que les nitrates, les phosphores, etc. etc.
C'est une question de taille de molécules ou c'est uniquement une question de concentration ?
Alors, pour moi, je pense que c'est essentiellement une histoire de concentration. D'accord. Concentration infime.
Justement. Oui. On parle de nanogrammes par litre. Je crois que,
exactement,
dans Prise de terre, samedi dernier, Daniel Unkeler avait une très jolie illustration. Si vous pouvez préciser ce que c'est un nanogramme par litre, je l'ai adoré celle-là. Alors, j'aimerais bien que vous la répétiez.
Oui, j'espère que je n'ai pas fait une faute de calcul, parce qu'après les nano microgrammes, il y a assez fort. Non, c'est juste que si on prend le lac Neuchâtel, qui est quand même un grand lac. Si on met 1 kg de sel, si on mélange très bien, on arrive à 1 nanogramme par l'entité du lac. Alors c'est relativement...
Voilà.
Oui, c'est une très belle représentation, effectivement, et j'attire vraiment l'attention sur le fait que ces micropolluants, quand ils sont dans l'eau, quand on vous parle de concentration, et c'est beau d'essayer de replacer dans un contexte très didactique, en fait, de cette manière-là.
Alors, ces concentrations infimes, je me tourne vers Pierre Studer maintenant. Qu'est-ce qu'on sait de l'impact de ces micropolluants sur la santé humaine ? Est-ce qu'il faudrait revoir les normes en vigueur ? D'abord, que sait-on de l'impact ? Peut-être la première partie de la question.
Alors, disons que les micropolluants que l'on connaît, on essaie de les réglementer, à savoir qu'on essaye, par des tests toxicologiques, de déterminer à partir de quelle concentration ils peuvent jouer un rôle sur la santé. Ces tests sont assez élaborés, c'est assez long à mettre en œuvre et ça coûte énormément d'argent. Mais on arrive, par substance, à définir une concentration en dessous de laquelle on n'observe pas d'effet négatif pour la santé humaine. Alors, on peut beaucoup discuter des tests. Hein, j'entends au niveau de la toxicologie, c'est vrai que tout cela se fait d'abord dans des tests in vitro et puis ensuite in vivo, à savoir principalement sur des souris et des rats. Alors, on n'est ni des souris ni des rats, mais après, il y a des facteurs liés au changement d'espèce qui sont aussi pris en compte. Et puis, il y a des facteurs qui sont surtout liés aussi à l'exposition des consommateurs à ces différentes substances. Ce qui est assez essentiel, c'est d'abord d'identifier le danger, à partir de quelle concentration est-ce que la substance en question peut poser un problème pour la santé. Puis ensuite, l'exposition des consommateurs à ce danger. Et à partir de là, on mène ce que l'on appelle une évaluation du risque. Et puis après, du côté de Berne, si on doit fixer une valeur maximale, on va tenir compte des études toxicologiques. Et puis on va aussi tenir compte de ce qu'il est possible d'obtenir au niveau, je dirais, d'un point de vue plus qualitatif. Et c'est vrai que pour un certain nombre de substances, on s'en tient à la toxicologie. Ça veut dire qu'au-delà, la santé peut être potentiellement mise en danger. Au-delà, donc, l'eau n'est pas consommable. Et puis, en dessous de cette valeur limite, on peut fixer ce qu'on appelle des valeurs de tolérance ou, disons, des valeurs qui sont plus liées, je dirais, au principe de précaution. Et à partir de là, si on se rend compte qu'on peut avoir des dilutions nettement inférieures du contaminant en question, on fixera la limite, entre guillemets, ou disons la valeur de tolérance, à un niveau qui nous garantit qu'on sera du bon côté du point de vue santé humaine. En disant cela, c'est vrai que j'aimerais préciser qu'on a réglementé un certain nombre de substances au niveau justement de la législation, mais ce qui nous pose plus de problèmes, en fait, c'est que quasiment chaque mois, on nous annonce des nouvelles substances qui sont mises en évidence dans l'eau. Et il y a beaucoup de substances où on ne fait que découvrir en fait la structure de la molécule en question. Et tous ces tests toxicologiques n'ont pas été menés. Alors là, on essaye de travailler avec d'autres règles où en fait, en dessous d'une certaine concentration, on ne peut plus observer vraiment de risques significatifs pour la santé. Et on adopte un concept, alors qu'on peut discuter longuement parce qu'il n'est pas forcément très précis, mais on adopte un concept de sensibilité toxicologique. C'est le concept TTC en anglais, Threshold of Toxicological Concern, et en dessous d'une certaine concentration qu'on a fixée pour l'instant à 0,1 microgramme par litre pour la majorité des substances, à quelques exceptions près. Mais si on ne connaît pas la toxicologie, on estime qu'en dessous de 0,1 microgramme par litre, ça ne devrait pas poser de problème pour la santé.
Mais quelles sortes d'affections peuvent générer ces substances ?
Alors, c'est vrai que les plus dangereux sont les substances génotoxiques. Et là, c'est évident qu'on a des effets au niveau de la reproduction humaine. On a des effets qui peuvent générer justement des cancers. Et c'est ces substances-là qui sont à réglementer en priorité au niveau de ces faibles concentrations.
C'est quel type de substances ?
Alors, au niveau des types de substances, ça peut être très, très divers, en fait. Moi, j'aurais de la peine à vous... Vu la variété de substances qu'on a déjà réglementées jusqu'à ce jour, j'aurais de la peine à vous donner une catégorie de substances. J'entends, on peut parler aussi bien d'hydrocarbures que d'autres substances liées à justement ce qu'on va retrouver dans certains additifs au niveau des détergents, des produits comme ça. Là, c'est vrai qu'on fait passablement des découvertes en cours de nos jours. Et quand vous me demandez si il faut revoir les valeurs, je pense que tout ce qui a été bien établi ne justifie pas forcément des révisions. Évidemment, au bout d'un certain temps, les connaissances scientifiques étant en progrès constant, c'est évident qu'on doit de temps à autre revoir une valeur. Mais à ma connaissance, en règle générale, c'est pas tellement pour devenir plus sévère, mais c'est régulièrement pour, je dirais, désamorcer les mises en garde qui avaient été annoncées, dans la mesure où on a été très prudent, et puis après on se rend compte avec un certain nombre de tests que c'est pas forcément aussi toxique qu'on l'avait imaginé au départ. Mais par contre, c'est vrai que quasiment chaque année, on révise nos ordonnances pour y ajouter de nouvelles substances.
D'accord. Daniel Unkeler, vous, à l'UNINE, au Chine, dans votre laboratoire hydrochimie et contaminants, vous dirigez des recherches sur les pesticides utilisés dans l'agriculture et leur infiltration dans les eaux souterraines. Si je résume, vous travaillez pour cela en étroite collaboration avec la station fédérale Agroscope à Zurich. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire des objectifs de vos recherches aujourd'hui et si vous avez déjà des premiers résultats sur quel type de substances vous travaillez?
Ouais. Déjà, beaucoup aussi travaillé sur l'aspect agriculture parce que si on parle de micropolluants, on parle assez souvent des steppes. Mais après, on va sûrement revenir aux steppes.
Oui,
une deuxième source, c'est aussi l'agriculture. Aujourd'hui, on a beaucoup de mesures au niveau steppes qui sont prévues. Mais c'est aussi pour voir si on regarde l'exemple du phosphore, où on a eu des bons succès avec la réduction par des produits de lessive qu'on n'a plus déversé via les steppes. Mais après, l'agriculture en partie a annulé cet effet par l'augmentation des inputs qui sont venus, oui, justement des engrais. Et là, il faudrait juste voir que pas la même chose va arriver aussi avec les micropolluants. Et nous, ce que nous intéresse vraiment, le devenir aussi à plus long terme de ces substances qui sont relâchées, c'est aussi peut-être une peu une perspective géologique où on s'intéresse assez souvent pour les échelles de temps un peu plus longues. Et là, on s'intéresse, si on applique des substances, on a déjà des transformations dans le sol. Et assez souvent, les bactéries, elles dégradent le produit pas complètement. On a la formation des métabolites qui assez facilement s'échappent après, sous la sonde des racines. Et comme mon collègue a déjà dit, la magnifique fonction des sols, alors dans le sol, beaucoup se passe très rapidement. Si on est plus profonde, la vie devient un peu plus pauvre parce qu'il a, ouais, il a moins de nutriments, pas de lumière, comme ça. Et on se pose la question, si ces substances après qui migrent plus profondes, est-ce qu'elles vont justement être dégradées s'ils passent peut-être quelques dizaines d'années dans le sous-sol ou pas? Et là, on sait encore relativement peu sur le devenir de ces substances en plus en profondeur. Et ça, c'est clair, on est en train, il y a aussi mes collaborateurs qui sont ici, qui travaillent sur le sujet, on est encore en train de mettre en place des méthodologies, parce que ce n'est pas évident de pouvoir démontrer un processus très lent dans l'environnement pour pouvoir observer quelque chose qui se déroule assez lentement. Et là, on développe des nouvelles méthodes aussi isotopiques pour justement démontrer le devenir à long terme de ces substances.
Voilà, donc à côté de vous, peut-être un des devenirs de ces substances, c'est qu'elles sont transportées, comme vous l'avez dit dans votre présentation, Philippe Brunner. Alors, quel est donc le lien entre vos recherches et ces micropolluants? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus?
Oui, merci. Oui, alors si on veut comprendre comment les micropolluants se distribuent dans l'environnement, on doit absolument comprendre leur chemin. Il faut comprendre l'origine de l'eau, le temps de résidence, par exemple, combien de temps l'eau a passé dans l'aquifère, combien de l'eau a mélangé avec des eaux de la surface. Si on n'a pas cette information, c'est très compliqué ou presque impossible de comprendre ces mesures de micropolluants. Et une des questions qui est assez importante, je pense, c'est aussi que toutes les rivières en ce moment sont dans une phase de transition. Il y a par exemple les changements climatiques qui augmentent la température, qui changent les dynamiques du débit. Ça a des implications pour les échanges entre les nappes et les rivières. Et donné qu'une très grande partie de l'eau potable en Suisse vient des aquifères qui est souvent pompée près, pas trop loin des rivières, alors si on ne comprend pas ces interactions, c'est très difficile à comprendre comment ces substances qu'on trouve dans les steppes vont être transportées dans l'environnement.
Alors, merci beaucoup. Après ce premier tour de table, je rappelle que voilà, il y a déjà une question. C'est formidable. Ce café est le vôtre. C'est, j'allais le dire. Attendez un instant le micro. Il va arriver parce que ce café est aussi enregistré. Il sera diffusé sur notre page web dans une semaine, peut-être disponible en lien.
Oui, je sais pas. Voilà. Voilà. Peut-être une question. Bonsoir tout le monde. Peut-être une question à Monsieur Studer. Plus précisément, ou aux autres intervenants, vous avez précédemment parlé d'études toxicologiques qui sont faites en employant le terme « on fait des études toxicologiques ». Donc j'aimerais savoir, après avoir entendu déjà un peu toutes vos interventions, qui est ce « on » ? Est-ce que c'est les fabricants de ces substances qui sont obligés de faire quand même un certain nombre d'études, de prouver que ces substances ne sont pas si dangereuses que ça, qu'ils maîtrisent le risque, ou alors c'est des instituts privés, comme l'institut, ou bien plus ou moins privé, étatique, quelles sont les responsabilités, qui fait quoi? J'aimerais peut-être que vous m'éclairiez, parce que ça donne un peu l'impression qu'on est dans un laboratoire, qu'on joue un petit peu aux apprentis sorciers avec notre environnement et notre santé. Donc merci de m'éclairer sur ce point.
Merci.
Merci pour la question. Je crois qu'on peut différencier en fonction aussi des micropolluants. C'est évident que si on veut commencer par parler des pesticides qui occupent passablement l'attention du public, c'est vrai que là, la Confédération a une procédure d'homologation des pesticides qui seront acceptés. Cette procédure d'homologation, elle est menée par l'agriculture et puis l'agriculture demande aussi à l'Office de l'Environnement et à l'Office de la Santé de participer à l'évaluation des dossiers. Les dossiers en question sont fournis par l'industrie qui veut commercialiser le pesticide en question. Et c'est vrai que c'est aux offices de poser les bonnes questions pour connaître notamment les propriétés du pesticide lui-même et puis aussi les propriétés des métabolites qui se forment quand le pesticide se dégrade au niveau des sols, au niveau des... et qu'on les retrouve dans les eaux souterraines. C'est vrai que là, c'est les experts, j'entends, santé, environnement et agriculture, qui se retrouvent pour faire une évaluation de chaque nouveau produit qui sera commercialisé en Suisse, et puis pour revoir assez périodiquement, c'est notamment le cas du glyphosate à l'heure actuelle, revoir assez périodiquement l'évaluation des produits qui sont déjà sur le marché. La plupart du temps, on n'a pas simplement de soucis avec les anciens produits. Ces anciens produits ont souvent des substances qui sont assez persistantes, j'entends, qui ne se dégradent pas facilement, et que l'on retrouve après un peu partout. Les nouvelles générations de pesticides sont certainement moins persistantes. En même temps, ce sont des substances qui sont aussi beaucoup plus actives que les anciennes. Donc peut-être, du point de vue quantitatif, ça n'a pas forcément la même importance. Ou disons, si on les juge par rapport à la concentration, on en trouvera moins. Par contre, je ne suis pas un spécialiste des pesticides en question, mais c'est vrai que l'activité de ces nouvelles substances qui sont mises en évidence, à mon avis, peut aussi jouer un rôle quand même assez fondamental. Puis après, il y a toute une série de polluants qui sont présents de manière diffuse dans l'environnement et que l'on retrouve notamment dans les captages. Et à ce propos, je pourrais vous parler d'un exemple où les Balois ont retrouvé toutes sortes de substances dans l'eau qui est distribuée en ville de Bâle. Cette eau, c'est essentiellement l'eau du Rhin qui est introduite dans une forêt, et c'est pendant plusieurs années, c'est la forêt qui a filtré justement l'eau du Rhin, de manière à avoir après des captages qui permettent de pomper une eau propre qui était distribuée en tant que telle aux Balois. Et c'était un des arguments de vente des services industriels de base, c'est de dire, vous avez un traitement naturel de l'eau qui vous arrive au robinet. Jusqu'au jour où on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait un certain nombre de micropolluants qui ont été mis en évidence dans cette eau. Il s'agissait d'en trouver les causes. Alors les causes pouvaient être assez diverses. Dans un premier temps, il était question de toutes les décharges industrielles qu'on trouve dans la région baloise. Et puis, à plus long terme, à force d'investiguer d'un point de vue hydrogéologique notamment, c'est vrai qu'on s'est rendu compte que le Rhin avait apporté énormément de polluants dans cette forêt. Mais ceci déjà dans les années après la guerre, dans les années 60-70. Et avait quasiment saturé la forêt en micropolluants de toutes sortes. Et puis après, à force de faire passer de l'eau là à travers, la forêt relarguait gentiment un certain nombre de micropolluants. Et là, c'est vrai que quand la liste a été dressée de toutes les substances inconnues qu'on retrouvait au robinet du consommateur, c'est finalement les services industriels de Bâle qui ont dû faire la part des choses pour savoir s'il fallait introduire de nouveaux traitements, enfin des traitements supplémentaires à l'eau en question. Et c'est là que les services industriels de Bâle ont dû, sur la base de la caractérisation de quelques substances, mener ces études toxicologiques et les payer eux-mêmes. Autrement dit, c'est vrai que normalement c'est le pollueur qui devrait payer, mais comme le pollueur lui-même, c'était quasiment tout le plateau suisse dans le cas présent, c'est vrai qu'il faut trouver quelqu'un qui passe à la caisse, quoi. Et là, il y a eu de grosses discussions. On nous a demandé aussi du côté de la Confédération si on était prêt à prendre en charge une partie des frais. Mais c'est vrai que la Confédération prescrit un certain nombre de choses, mais on n'a pas les moyens de mener toutes ces études toxicologiques. Donc les sources de financement des études en question peuvent être assez diverses. Ce qui est important de préciser, c'est que justement, il doit y avoir un comité qui fait l'évaluation des dossiers qui sont présentés.
Oui, monsieur. Je vais vous donner mon micro.
Pour enchaîner sur Bâle, il y a quelques années, j'ai eu l'occasion de parler avec le conseiller d'État Stiefel, qui m'a dit que, à la suite de l'accident de Schweizerhalle, ça a tellement bien nettoyé le Rhin que les saumons remontent de nouveau jusqu'à Bâle, alors qu'ils ne venaient plus depuis longtemps. Il faut aussi penser aux substances qui ne se dégradent pas. Par exemple, la caféine, si elle exalte la mémoire des poissons, par contre, alors il y a les hormones féminines qui féminisent les poissons, n'est-ce pas ? Ça, c'est aussi une chose dont il faut se souvenir. Le cadmium, qui nous vient aussi par l'atmosphère, on sait que ce qui vient par l'atmosphère va aussi dans le sol et ensuite dans les eaux de ruissellement. Nous recevons 650 kg par année de cadmium en Suisse, la moitié étant produite chez nous, un quart de l'Italie, 4% de Pologne, etc. Et j'aimerais terminer par un cas particulier qui s'est passé à Zurich il y a quelques années. Il y a eu une accumulation de cas de toxoplasmose qu'ils ont trouvé à l'Institut d'ophtalmologie de Zurich. Et on s'est aperçu que toutes ces personnes venaient d'un même numéro de rue, d'un même immeuble à Zurich. Et pour finir, on a trouvé que dans cet immeuble, il y avait un réservoir de base et que c'est à partir de ce réservoir de base que l'eau était distribuée dans l'immeuble. Et c'est là-dedans que des toxoplasmes s'étaient développés au cours du temps, et dont personne n'a jamais su d'où ils venaient, parce que les toxoplasmes, normalement, ils sont chez les hamsters, dans la viande de mouton pas suffisamment cuite, dans les excréments de chat, etc. Enfin, voilà. Donc, il y a aussi des choses qui sont imprévisibles. Merci.
Oui, ça montre la grande variété des sources de pollution, effectivement. Oui, Philippe.
J'ai juste un petit commentaire au premier point que vous avez dit, qu'on a retrouvé des poissons dans le Rhin et tout est plus ou moins rincé et en ordre. Moi, je pense que c'est assez dangereux de dire ça, parce que le cycle de l'eau, c'est pas que les rivières, ce sont aussi les eaux souterraines. Si on regarde les temps de résidence dans la rivière, une rivière est nettoyée assez vite parce que l'eau est remplacée avec la précipitation, avec les écoulements de surface, très vite. Mais une fois l'eau s'infiltre dans l'aquifère, c'est dedans et ça se rince pas si vite. Ça peut durer des années et des années, ou même des centaines d'années, que ces substances sont toujours là dans ce comportement. Et une fois c'est dedans, c'est souvent presque impossible de les reprendre. C'est une grande différence entre les eaux de la surface et les eaux souterraines.
Oui, Benoît Ferrari.
Oui, j'aimerais rajouter quelque chose. Effectivement, les rivières peuvent être nettoyées avec le débit de l'eau qui va rincer, comme vous dites. N'empêche qu'il y a certains endroits où l'eau est stagnante, donc avec des courants qui sont très faibles, et là le transport particulier par exemple peut sédimenter, et donc on obtient des belles nappes de sédiments fins, et sur ces sédiments fins on peut retrouver beaucoup de micropolluants qui sont eux-mêmes attachés à cette matière en suspension qui sédimente. Donc là on peut avoir aussi des spots de contamination qui ne sont liés uniquement qu'au fait de la sédimentation des particules. Donc c'est aussi un autre réservoir et qui peut mettre beaucoup de temps avant d'être éliminé naturellement ou alors par l'intervention de l'homme. Par exemple, si vous êtes sur une voie navigable et qu'il y a du dépôt de sédiments dans cette voie navigable, à un moment donné, donc la hauteur d'eau va diminuer forcément puisque les sédiments vont combler cette voie navigable. Il va falloir intervenir. Et si ces sédiments sont contaminés, qu'est-ce qu'on en fait ? Donc là, la question est très importante aussi. Et donc là, il va falloir analyser donc ces sédiments et statuer sur la qualité de ces sédiments pour pouvoir en faire quelque chose par la suite. Donc il ne faut pas négliger aussi cette partie-là et que penser que l'eau peut s'écouler, que ça nettoie, je ne pense pas que ce soit vrai en tant que tel.
Oui, une question, monsieur.
Merci. Bon, on comprend bien qu'il y a tellement de micropolluants qui apparaîtront encore que toutes les mesures qu'on pourrait prendre aujourd'hui sont vouées à être rénovées dans le futur. Mais est-ce qu'il y a des moyens, par exemple, si on distille l'eau, est-ce que ces micropolluants retombent dans l'eau distillée ou bien, parce que j'ai vu chez Viteos, on utilise des filtres au carbone actif, après on met du chlore dans l'eau. On comprend que les bactéries, elles vont être éliminées, par la cuisson de l'eau d'ailleurs aussi, on en élimine une bonne partie, mais ces particules tellement petites qu'on appelle micropolluantes, est-ce qu'elles disparaissent par la distillation de l'eau ou pas ?
Alors, je vais peut-être abonder dans votre sens et prolonger encore la question. En évoquant le thème des stations d'épuration, parce qu'effectivement, le Conseil fédéral a demandé au STEP de s'équiper pour éliminer les micropolluants dans un message en 2013 déjà. Et c'est effectivement en cours maintenant. Donc on peut parler des techniques pour débarrasser les eaux usées des micropolluants. Monsieur a mentionné le charbon actif, effectivement. On parle aussi d'ozone pour oxyder les substances indésirables. Voilà, est-ce qu'on peut faire un peu le tour de cette question de dépollution de ces contaminants? Alors, monsieur Studer.
Merci. Alors, je ne peux parler que de l'eau potable. Je ne suis pas un spécialiste en station d'épuration, mais c'est vrai qu'il y a quelques similitudes dans les traitements qui sont appliqués. C'est vrai qu'avec la cuisson de l'eau, vous n'allez éliminer que la partie microbiologique. Vous n'allez améliorer que l'état microbiologique de l'eau, à savoir les bactéries, éventuellement les parasites et puis les virus qu'elle pourrait contenir. Pour tous ces micropolluants, c'est vrai qu'on a d'autres moyens qui sont assez sophistiqués, où en fait, dans un premier temps, on essaye déjà... Enfin, j'ai en tête l'exemple des services industriels de Genève qui, en fait, commercialisent l'eau du Léman. Et cette eau du Léman, dans un premier temps, elle est floculée pour essayer d'enlever un maximum de matière organique.
Floculée, qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire qu'en fait, on trouve moyen, avec certains sels, de fixer, de faire sédimenter toutes les particules qui se trouvent dans l'eau en question. Une fois qu'elle a été clarifiée, elle peut être traitée justement à l'ozone avec des moyens d'oxydation assez violents qui permettent justement d'éliminer tout ce qui est microbiologique dans le produit en question. Et puis par la suite, par filtration successive et filtration notamment à base de charbon actif, on arrive à retenir une grande partie des micropolluants en question. L'étape de charbon actif, c'est également ce qui a été mis en œuvre du côté de Bâle. Et depuis là, c'est vrai qu'on a quelques traces encore de micropolluants, mais qui sont vraiment très très basses, j'entends. Le 99% des micropolluants en question peut être éliminé de cette manière. Ça, c'est pour le traitement des eaux de l'eau potable. Et il semble que ces traitements soient aussi valables avec des moyens un peu plus sophistiqués pour aussi traiter les eaux usées. Et on espère aussi de cette manière-là réduire sensiblement, enfin c'est un projet supporté par l'Office de l'environnement et qui a passé la décision du Parlement. Et dans la révision actuelle de l'ordonnance sur la protection des eaux, il est question de pouvoir mettre en place de nouvelles générations de stations d'épuration avec des moyens d'oxydation assez sophistiqués qui permettraient de réduire les micropolluants à l'endroit où ils sont le plus concentrés, à savoir dans les eaux usées, avant de relarguer ces eaux dans les lacs et les rivières.
Je peux peut-être aussi encore ajouter quelque chose particulier pour l'eau potable qui provient du sous-sol. Parce que c'est quand même assez difficile après d'enlever des substances, parce que pour l'eau potable, le sous-sol, c'est vraiment le filtre naturel qui va déjà enlever une bonne partie des choses. Et tout ce qui passe quand même à travers le filtre naturel du sous-sol, c'est aussi pas si facile de sortir avec des filtres artificiels, parce que c'est assez souvent des choses qui sont très bien solubles. Par exemple, nous, on travaille sur un produit c'est un métabolite qui vient d'une herbicide qui est utilisée dans la production des betteraves. C'est quelque chose qui est très bien solubilisé dans l'eau, et si vous prenez du charbon actif, c'est assez difficile à enlever. C'est clair, avec les moyens modernes techniques, on peut quasiment tout faire. Dans l'extrême, on pourrait faire de l'osmose inverse, où vous enlevez tous, y compris ce qui est bien dans l'eau, le calcium, le magnésium, tous. Et après, ça, c'est aussi une manière que l'eau minérale est produite, par exemple, dans les États-Unis. Après, vous devez remettre des minéraux qui sont bien pour la santé par derrière. C'est faisable. Mais c'est tout ça, après, aussi une question des prix. Alors, ça donne vraiment, avec des méthodes qui ne sont pas trop coûteuses, c'est un défi assez grand d'enlever ces substances. Et c'est aussi au niveau de la législation et tout ça, c'est aussi l'objectif. C'est même mis dans la législation qu'on peut utiliser l'eau avec un traitement simple. Ça, c'est là, sans devoir investir chaque fois des grandes sommes.
Je crois qu'il y a une remarque de la part de monsieur qui est...
Oui, ça marche. marche là. Oui, je peux apporter quelques précisions concernant les traitements des eaux potables. Actuellement, donc, on travaille de plus en plus, plutôt que les filtres monocouches, bicouches ou tricouches avec différentes qualités de sable sur lesquels on fait des flocculations, on travaille plutôt avec de l'ultrafiltration. C'est des bougies qui permettent de faire... on peut enlever jusqu'au virus pratiquement avec ces choses-là. Donc tout ce qui est matière en suspension est parti. Alors après, restera des matières organiques et des micropolluants éventuels, suivant les stations où elles se trouvent. Et là, on va travailler avec l'ozonation ou le bioxyde de chlore ou des compléments comme ça qui sont des oxydations très puissantes qui permettent de fragmenter les métabolites et ensuite de les absorber sur le charbon actif. Alors, le charbon actif, c'est difficile, on peut le travailler. Dans les stations d'épuration, on travaillera avec du charbon actif en poudre plutôt que des filtres à charbon qui se satureront trop vite. Pour les eaux potables, en ayant l'ultrafiltration avant, vous n'avez pas de problème de ce genre et vous pouvez travailler avec des charbons actifs en grains. Tandis que dans les eaux usées, on travaillera avec du charbon. Maintenant, pour les sauf erreur de ma part, c'est les stations qui font l'équivalent de 100 000 équivalents habitants, ça M. Studer pourrait le dire, qui sont maintenant visés pour ces histoires de micropolluants. Mais encore faut-il qu'après les phases physiques, biologiques de traitement de stations d'épuration, on ait ce qu'on appelle le quatrième stade, qui est déjà une filtration, permettre d'enlever le reste des matières en suspension ou des bouts activés qui resteraient dans la station. Et ensuite, on peut passer sur une oxydation fragmentaire des micropolluants, notamment les perturbateurs endocriniens, ces choses-là. Et puis ensuite, on peut travailler avec le charbon actif en poudre par batch et vous avez une élimination qui est assez extraordinaire. Donc c'est les AVAG, le Wasser qui a mis au point en partie cela, plus des instituts en Allemagne qui l'ont fait. Donc on a là quelque chose de bien efficace, mais qui coûtera extrêmement cher, compte tenu des débits qu'il y a dans les stations d'épuration.
Merci beaucoup. Je crois savoir, vous étiez directeur du laboratoire, mais je ne me souviens plus, cantonal des eaux, hein, de la ville de Neuchâtel, voilà. Donc on a un avis d'expert ici, monsieur. D'accord, ben, alors intervenez quand vous voulez. On aura six intervenants, donc rallongés. Je crois que Philippe Brunner voulait rajouter quelque chose par rapport à vos remarques.
Oui, c'est impressionnant ce qu'on peut faire pour augmenter la qualité de l'eau potable. Mais dans cette discussion, on ne doit pas oublier que ce ne sont pas seulement les humains qui consomment l'eau. Hein. Les micropolluants qui sont dans la nature, ça affecte tous les systèmes biotiques, hein, les oiseaux, les poissons, tout. Et dans cette discussion, c'est bien si on peut vraiment faire tout pour avoir de l'eau potable qui est bien pour nous. Mais finalement, on va le retrouver dans la nourriture. Alors c'est peut-être aussi important qu'on discutera plus tard de comment on peut éliminer que ces substances entrent dans la nature et pas juste de réfléchir comment on peut avoir de l'eau potable.
C'est une très bonne remarque, monsieur, parce que effectivement, l'histoire des stations d'épuration avec l'élimination des micropolluants, elle est faite avant tout parce qu'on a des stations d'eau potable qui prennent leur eau à partir des lacs, comme sur le lac Neuchâtel, il y en a 5 ou 6, je ne me souviens plus, qui prennent de l'eau potable, et c'est pour éviter que les humains reçoivent ensuite ces micropolluants qu'on traite d'abord les stations. Qu'on fait ce traitement supplémentaire dans les stations d'épuration. Mais vous avez parfaitement raison, il y a tout le problème des animaux, des poissons, etc. Et ça, c'est encore un autre phénomène que l'on n'a pas encore vraiment complété.
Je crois qu'il y avait une question de monsieur ici devant.
Oui, c'est juste une petite question concernant une remarque qui se trouve dans l'impartial du 31 août de cette année à la page 3. Ces analyses chimiques annuelles comprennent-ils la recherche de glyphosate, composant de l'herbicide, ou des produits issus de sa dégradation à MPA? Puis la réponse, non, ces deux produits ne sont pas analysés. La chaîne de traitement de l'eau, c'est-à-dire en amont des réservoirs, les élimine. Et c'est un commentaire qui vient du LOCL. Alors là, c'est déjà bien de savoir que c'est possible d'affirmer que ces produits sont en effet éliminés. Mais qu'en est-il en vérité? J'aimerais bien savoir un peu plus là-dessus.
Donc, glyphosate et AMPA. Donc, vous nous éclairez un peu de quoi il s'agit. Alors, qui veut répondre? Daniel Onkeler?
Alors, ça, c'est. Le glyphosate, c'est un herbicide qui est utilisé le plus couramment, ou c'est le numéro 1, je pense, actuellement en Suisse, pour désherber avant qu'on mette d'autres cultures. Et après, le AMPA, c'est un produit de dégradation qui est produit dans la
par
nature.
Le glyphosate.
Du glyphosate, oui, le AMPA. Ouais.
Alors, la question était est-ce qu'on élimine le glyphosate avant? Est-ce qu'on analyse le glyphosate? Qu'est-ce qui...
Simplement, ce que je sais, c'est que le traitement du LOCL est un traitement assez sophistiqué où il y a justement une opération, enfin une étape d'ozonation, et puis après deux filtres successifs, et puis à la suite de ces deux filtres successifs, il y a encore un traitement au charbon actif, et avec ça, on ne devrait plus retrouver de glyphosate dans l'eau.
Donc c'est garanti. Mais, où sont glyphosate?
Alors, mais monsieur veut... Peut-être que ce serait nécessaire fois de vérifier si vraiment il n'y a plus de traces de glyphosate dans l'eau qui reste, j'entends. Mais encore une fois, en fonction justement du traitement en question, en fonction de ce que l'on sait à propos du glyphosate, on peut quand même affirmer avec une bonne certitude que quand l'installation fonctionne normalement, il n'y a pas de risque d'en retrouver par la suite.
Alors, monsieur va vous répondre, je pense, derrière.
Oui, volontiers, juste compléter en disant que dans le cadre de l'article, il faut savoir qu'au niveau de l'autocontrôle, ça n'a pas été mentionné, mais il y a 4 analyses chimiques qui sont faites par année, dont une fois par année en contrôle au niveau des herbicides. Donc, c'est quand même un contrôle autant chimique que pesticides qui est relativement complet. Et il est évident qu'on a des traces, mais comme on a des traces un peu partout, mais de loin pas à atteindre la norme.
Donc là, le système de traitement du LOCL, c'est quelque chose qui est tout à fait souhaitable, adopté.
Donc, effectivement, le système de traitement au LOCL, c'est quelque chose à l'avant-garde, au point où on peut dire que c'est quelque chose qui peut être utile bien ailleurs dans la Suisse. J'ai ici des informations concernant les micropolluants de plusieurs lieux en Suisse qui indiquent en 2011 qu'il y avait vraiment des problèmes à résoudre sur ce point en ce qui concerne l'eau potable dans au moins la moitié des cantons.
Alors, peut-être, vous voulez... Alors, on passe dire... D'accord, mais merci de votre remarque. On a une question là-bas, oui.
C'était juste pour répondre. Donc, je travaille au service des eaux de Viteos pour les 3 villes.
D'accord.
Donc, le cas du lac...
On
le
a
cas...
plus d'experts dans la salle qu'à la table. Hein. Non. C'est génial. Non. Non, mais on est ravis.
Le cas du LOC, donc il y a un traitement très poussé, c'est pour des raisons, donc les sources se trouvent au milieu de la ville et donc ont des zones de protection plus ou moins improtégeables et vu l'industrie, il y a des risques qui nécessitent un traitement très poussé et c'est un cas exceptionnel qui demande un traitement exceptionnel et je ne pense pas que c'est dans cette direction que doivent aller tous les traitements de l'eau. Après, pour ce qui est du traitement, c'est clair qu'on doit faire un peu une analyse de risque. Maintenant, le grand problème des micropolluants, c'est clair que dans l'eau brute, vu les analyses, on en trouve un peu partout. Et puis, il faut trouver un juste compromis entre la qualité de l'eau que l'on veut distribuer à un coût acceptable. Et à ce jour, dans les 3 villes, le niveau des micropolluants est encore en dessous des normes. Mais on travaille pour améliorer ça. Et ben, cette semaine, il y a eu un crédit qui a été voté par la ville de Neuchâtel pour aussi améliorer le traitement de l'eau à Neuchâtel avec justement l'introduction d'une ozonation supplémentaire et d'une ultrafiltration pour pouvoir ces prochaines années répondre aux normes. Mais c'est vrai qu'actuellement, les eaux sont potables selon les normes. Et quelles seront dans le futur l'évolution des normes? Ça, personne n'est devin, mais on se prépare à pouvoir répondre à ces défis futurs.
Ces traitements ont lieu au niveau des stations d'épuration ou bien au niveau des stations de traitement avant de le passage
là,
au robinet?
Je parle au niveau de l'eau potable, mais c'est clair qu'il faut une vision globale et parallèlement, donc il y a tous les travaux pour que les stations d'épuration de grande importance traitent aussi les micropolluants pour qu'on en ait moins dans les effluents, donc dans l'eau du lac, et qu'à terme, on va aussi améliorer la qualité de l'eau du lac par rapport aux micropolluants. Mais vu le nombre de produits qui apparaissent, c'est un défi et je n'ai pas de réponse claire pour le futur.
Merci beaucoup de ces précisions. Oui, monsieur.
Compléter ce que monsieur vient de dire, moi qui ai vécu depuis les années 60-65, l'évolution des traitements de l'eau et de la qualité de l'eau, le Locle à l'époque était bourré dans ses nappes phréatiques et ses sources de solvants. Tous les solvants, et à l'Orléans, il y en avait des catégories assez importantes de tout type, je ne vais pas entrer dans le détail, c'était déversé directement dans les sols et ça partait là-dedans. Et c'est la raison pour laquelle la chaîne de traitement du Locle a été faite de cette façon pour que ce soit absolument que ça permette d'éliminer tous ces solvants avec le temps, ce qui s'est fait puisque maintenant la législation est devenue très très sévère vis-à-vis des rejets de ces substances qui doivent maintenant être traitées, alors qu'avant on les flanquait dans les sols n'importe où. Et puis d'autre part, alors ce qu'il y a aussi, ces problèmes de réservoirs qui sont avec des stations modernes, je pense un peu ça au Locle, je ne suis pas tout à fait sûr, mais ça pourrait me confirmer, les stations très modernes qui donnent une eau de qualité impeccable, et puis vous avez des réservoirs qui sont un peu les anciens styles avec des ouvertures. J'en ai vu, moi, je ne vais pas citer où, mais encore avant ma retraite, où il y a des rats qui s'étaient jetés par simplement une aération qui n'avait pas de filtre, réservoir et puis qui se trouvait dans le réservoir avec tout un tas de micro-organismes dont on ne savait pas d'où ça venait lorsqu'on a trouvé les rats, plus une famille entière en fait, bref. Et puis donc ça c'est peut-être une chose, les directives de la Société Suisse des Eaux et du Gaz sont très très maintenant fermes sur la qualité des réservoirs, comme à Zurich par exemple, ils sont entièrement fermés, on ne peut plus y pénétrer, il y a tout un système de filtres pour que l'air qui rentre ou qui sort soit filtré, et là il n'y a aucune contamination possible. Alors au Locle ça n'a pas été le cas et c'est juste le défaut de quelque chose qui par ailleurs a été extrêmement performant. Voilà ce que je peux ajouter.
Merci. D'autres questions? Oui madame. Moi je vais vous donner mon micro.
Bonsoir, c'est pour changer un petit peu de sujet puis repartir un peu plus dans le général. On parle beaucoup de traitement de l'eau, mais est-ce qu'en amont, chez les producteurs évidemment, est-ce qu'il y a des démarches? Parce que bon, je sais qu'on ne parle pas des mêmes chiffres, hein, même pour le traitement ça coûte déjà cher, mais je pense pour aller contre les lobbies pharmaceutiques et agroalimentaires, c'est un autre ordre de grandeur. Mais est-ce qu'il y a quand même des choses qui se passent à ce niveau-là pour essayer de limiter le nouveau nombre de substances chimiques qui se créent, ou d'essayer de revenir vers quelque chose d'un peu, des substances un peu plus naturelles qui, on sait, se dégradent normalement mieux dans l'environnement? Enfin, est-ce qu'il y a quelque chose à ce niveau-là? Est-ce que vous avez connaissance de ce genre de choses ou pas?
Voilà, qui veut se lancer? Les actes citoyens, voilà, on est dans l'action citoyenne. Qui veut répondre? Oui, monsieur Stouder.
Merci pour la question. C'est vrai que je réponds volontiers parce qu'en fait, encore hier, j'ai participé à un débat où l'Office de l'agriculture a invité les autres offices fédéraux de l'environnement, de la santé, et puis aussi tous les responsables cantonaux de l'agriculture, de l'environnement, de la santé. Donc, autrement dit, ça faisait vraiment beaucoup de monde, pour parler d'un plan d'action concernant la réduction des pesticides. Mais comme disons, l'initiative vient de l'agriculture, la donnée du problème est le suivant, c'est qu'il faudrait voir comment est-ce qu'on peut optimiser l'utilisation des pesticides ou réduire l'utilisation des pesticides tout en maintenant la production. Alors évidemment, on peut difficilement renoncer complètement à tous ces produits-là, ce qui signifierait qu'en fait toute la Suisse pourrait produire remplirait les conditions pour des produits bio. Mais c'est vrai qu'il y a un certain nombre de réflexions qui sont faites dans la mesure où toutes ces substances persistantes, dès qu'on s'aperçoit qu'elles s'accumulent, notamment dans les eaux souterraines, elles posent à plus ou moins long terme, c'est une question de temps, mais au bout d'un certain temps, elles posent quand même un problème. Et comme ça a été dit tout à l'heure, c'est vrai que ce n'est pas facile de s'en défaire. Une fois que le plateau suisse est contaminé par un pesticide ou par un métabolite de ces pesticides, c'est vrai qu'il faudra plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années pour que le produit en question disparaisse, sachant que dans les eaux souterraines, finalement, ces substances sont très stables. Et c'est vrai qu'il y a une prise de conscience, à mon avis, aussi du côté de l'agriculture, qu'en fait, ils ne se rendent pas service en ayant une image de pollueur. Et à partir de là, c'est vrai qu'ils deviennent de plus en plus conscients qu'il faut essayer d'optimiser l'utilisation de ces produits.
Mais qui, donc les agriculteurs, là, vous parlez des agriculteurs ou des producteurs, des industriels qui produisent ces produits phytosanitaires ?
Non, là, je pense plus aux agriculteurs et puis aux organes de, comment on dit, les conseillers en agriculture qui se trouvent au niveau des cantons. À partir de là, si la prise de conscience, disons, si les problèmes viennent et notamment les inspecteurs de l'eau ont déjà démontré un certain nombre de problèmes justement en analysant les eaux qui sont captées pour devenir de l'eau potable. Chaque fois que les problèmes sont soulevés, on repère des résidus qui s'accumulent. C'est vrai que la démarche, c'est de voir en gros entre guillemets, qui sont les pollueurs. Et puis à partir de là, entre agriculture et santé, il doit y avoir des discussions pour savoir en gros qu'est-ce qu'il est possible de mettre en place. Ce n'est pas toujours des discussions qui sont faciles, mais enfin, de ce côté-là, au niveau de l'utilisation même de ces pesticides, il y a des démarches. Après, j'aurais de la peine à parler au niveau des producteurs de pesticides. J'entends, c'est vrai qu'encore une fois, il y a une procédure d'homologation et c'est à ce niveau-là qu'on peut éliminer les pesticides qui sont les plus gênants.
On aurait aimé en avoir autour de cette table, c'est difficile.
Oui, peut-être aussi donc, notre expérience un peu sur des cas, ces pratiques qu'on travaille, par exemple, justement sur ces pesticides que tu dis, c'est pour les betteraves, on retrouve assez souvent les métabolites, il a différentes approches, assez souvent on essaie de remplacer par une autre qu'on espère qu'on n'arrive pas à l'eau, ça c'est, et après c'est pas sûr. Mais là aussi, après des choses qui sont plus rassurantes, parce qu'on travaille pas mal aussi dans le Seeland, aussi dans les serres, là on était aussi récemment là-dedans, où il disait, si on était venu il y a 10 années, toute la serre on pourrait pas entrer parce qu'il y a des vapeurs de pesticides, c'était dangereux pour entrer. Et maintenant, il y a une nouvelle génération de paysans qui a repris, qui utilisent maintenant des approches biologiques pour combattre, que la génération d'avant disait encore ça ne marche pas. Et là, il a quand même, c'est assez variable, et quand même parfois des changements de méthode.
Alors qu'est-ce qu'on attend pour passer au bio complet puisque ça a l'air de marcher. Hein. C'est assez encourageant. Peut-être, Benoît Ferrari, vous vouliez ajouter quelque chose par rapport justement à l'impact sur les écosystèmes et le rôle des agriculteurs.
Alors, je ne vais pas parler des agriculteurs, mais je vais parler plutôt des dossiers d'homologation, puisqu'on a la partie toxicologie, santé, on va dire, et on fait dans ces dossiers d'homologation une grande partie qui est liée à l'environnement, donc avec une approche d'évaluation du risque des substances, qui se fait à peu près dans le même esprit que pour la toxicologie, sauf que là, on parle d'espèces peuplant les écosystèmes qui sont utilisées comme espèces sentinelles pour voir si effectivement il y a un impact de ces micropolluants ou alors de ces pesticides, produits phytosanitaires par exemple, dont il s'agit. Et donc avec l'objectif de cerner l'écotoxicité de ces produits vis-à-vis donc de ces substances-là. Et donc à partir de là, acquérir des données qui sont essentiellement des données de danger. Est-ce qu'il y a un danger lié à ce type de molécule qui pourrait être après commercialisé ? On parle de danger simplement, pas de risque encore, puisqu'après, une des grandes parties des dossiers d'homologation, c'est l'évaluation du risque. Donc, c'est la modélisation en partie. Je parle vraiment en amont, avant que la molécule soit commercialisée. C'est la modélisation de comment on va les retrouver, à quelle quantité on va les retrouver dans l'environnement par rapport donc à l'utilisation essentiellement, et donc essayer de définir un risque, c'est-à-dire donc tout bêtement hein, de calculer une concentration qu'on sera susceptible de retrouver dans l'environnement, et puis de la confronter à donc ces données de danger qui qualifient donc la molécule, et à partir de là statuer sur cette notion de risque, et donc avec des étapes qui partent vraiment de très loin, avec des tests simples jusqu'à des tests et des essais en plein champ, par exemple, pour voir s'il y a des effets de ces molécules-là. Donc ça, c'est vraiment pour la partie évaluation du risque, mais j'aurais envie de dire que malgré tout, on va retrouver de toute manière toutes ces substances-là dans l'environnement, et je m'interroge à chaque fois sur le fait qu'on considère uniquement substance par substance, alors que dans l'environnement, on est bien face à des cocktails de substances, et ces cocktails de substances-là, il faut vraiment en tenir compte, puisque si vous parlez d'une seule molécule avec un type de mode d'action, on va prendre les œstrogènes, par exemple, ou les perturbateurs endocriniens, vous aurez d'autres molécules qui pourront avoir ce même type de mode d'action. Et en fait, on n'aura pas la concentration d'une seule substance qui va agir, mais bien la concentration de tout un tas de substances, et donc qui va s'additionner et qui pourra provoquer un risque là où on l'attend pas. En fait. Et donc tout l'enjeu derrière, il y a un enjeu effectivement en amont, mais il y a aussi un enjeu environnemental et donc directement pour les écosystèmes, c'est de se munir d'outils qui vont permettre de qualifier donc s'il y a un effet ou pas de ce cocktail de substances dans l'environnement. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre, parce que vous pourrez faire toutes les analyses du monde et essayer de décoder, si j'ose dire, l'ensemble des contaminants qui seront présents dans les écosystèmes, vous en oublierez toujours une part. Et cette part-là, c'est peut-être cette part-là qui va prendre part, justement, donc aux effets possibles sur les écosystèmes. Donc là, il y a une réflexion également à avoir. Pour en revenir un petit peu aux normes de qualité environnementale, ou critères de qualité environnementale, comme on les appelle, il y a un travail maintenant qui est fait justement substance par substance, mais aussi il y a un raisonnement justement à l'aide de la modélisation d'essayer de prévoir l'effet de ce cocktail de substances. Donc ce travail-là est fait notamment pour les produits phytosanitaires et donc doit rentrer effectivement dans le plan d'action pour les produits phytosanitaires. Il me semble que c'est une des actions qui pourrait être assez importante, c'est d'avoir des normes de qualité ou des critères de qualité plutôt, qui soient vraiment précis et qui permettront de statuer vraiment sur la qualité des écosystèmes. De renseigner sur la qualité des écosystèmes va permettre non seulement donc de protéger ces écosystèmes, mais également de pouvoir permettre de puiser de l'eau dans ces écosystèmes et de les remettre dans les réseaux de distribution pour qu'ils soient qu'ils arrivent à notre robinet. Si j'ose dire, avec tout le risque le plus faible possible qui produise un effet sur nous.
Oui, monsieur, oui, je vous en prie.
Merci. Une question ouverte, peut-être. Concrètement, qu'est-ce qui est à la portée des consommateurs et consommatrices pour essayer de réduire la part de ces micropolluants? Alors j'imagine, j'ai peut-être quelques exemples, consommer bio justement, avec moins de pesticides, pas peindre sa façade avec des substances super toxiques, mais c'est très difficile à évaluer parfois en tant que consommateur. Il y a aussi au niveau peut-être des cosmétiques, au niveau des produits de nettoyage. Concrètement, qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme conseil pour essayer de préserver un petit peu notre environnement et notre santé?
Merci. Une très bonne question, et j'ajouterais pour les profanes de savoir si sur les étiquettes des produits qu'on nous vend, est-ce qu'on peut avoir une idée du fait si on a des micropolluants dans la composition des produits qu'on achète ou pas? Est-ce qu'il y a quelque chose au niveau des étiquetages aussi, pour abonder dans le sens de monsieur?
Merci pour la question. Je pense qu'au niveau de la composition des produits, c'est vrai que si on pense à des cosmétiques ou des produits comme ça, les ingrédients qui sont mis en œuvre sont cités sur le sur la liste des ingrédients. Ils doivent être cités dans l'ordre décroissant de leur quantité mise en œuvre. C'est vrai que si les ingrédients en question contiennent des micropolluants, vous n'aurez pas la liste de ce qui contamine les différents ingrédients, entre guillemets. Et là, c'est vrai qu'il peut y avoir quelques soucis. Maintenant, des conseils à donner au niveau de la consommation, je pense que ça peut aller assez loin dans la mesure où on retrouve, enfin, les substances qu'on retrouve un peu partout dans la nature sont des produits de grande consommation et qui peuvent être utilisés dans toutes sortes d'applications. J'entends, il n'y a pas forcément que, je dirais, tel cosmétique qui va contenir un additif permettant de stabiliser le cosmétique ou de lui donner une certaine structure, etc. Mais vous pouvez retrouver le même additif dans toute une quantité de produits. Donc c'est vrai que là, c'est très difficile de faire un peu le tour de ces questions.
Mais est-ce qu'il y a des listes, par exemple, qui existent, qui pourraient être facilement accessibles, des principaux micropolluants? On ne va peut-être pas tous les citer, mais peut-être les principaux, ceux qui sont les plus répandus.
À ma connaissance, il n'y a pas de liste exhaustive qui donnerait le nombre de micropolluants ou, disons, l'identité de ces micropolluants. C'est vrai qu'on en réglemente, encore une fois, on en réglemente toute une série à travers des exigences qui sont fixées pour les produits, notamment au niveau des additifs. C'est vrai qu'un additif, premièrement, doit démontrer la nécessité de mettre cet additif dans une denrée alimentaire, par exemple, ou dans un objet usuel, comme on les appelle, les objets qui entrent en contact avec les denrées alimentaires. C'est vrai qu'il y a des listes positives pour essayer de réglementer notamment tous les plastiques qui peuvent entrer en contact avec des denrées alimentaires. Il y a énormément de réglementations à ce sujet. Il y a encore beaucoup de choses à faire, notamment dans les encres d'imprimerie, où on connaît très mal la composition de ces encres d'imprimerie. Et c'est toute une lutte avec les fabricants pour connaître en gros leurs secrets de fabrication, de manière à ce qu'on puisse aussi réglementer cela, ou bien qu'on puisse éliminer un certain nombre, qu'on puisse exclure un certain nombre de substances. Mais bon, ça a été dit en début de soirée, il y a plus de 100 000 produits chimiques qui circulent sur le marché, et vraiment faire la liste, c'est un travail de titan, en fait. C'est quasiment pas possible, à mon avis en tout cas. Il y a peut-être d'autres experts, je ne sais pas.
Oui, alors, d'abord madame, et puis...
dire les choses un peu pas trop scientifiques, mais terre à terre, que j'habite depuis 9 ans à Haute-Rive, et toute notre famille, elle boit de l'eau de robinet, et puis on n'était jamais malade jusqu'à présent. Par contre, à Genève, on avait un peu peur. Mais à Versoix, on a aussi donné toujours, pendant 18 ans, à boire aux enfants dans notre école, et puis ils n'étaient pas malades, donc je pense que l'eau en Suisse des robinets, elle est très bonne pour le moment, puis après on verra.
Oui, rappelons quand même que globalement l'eau potable en Suisse est effectivement de bonne qualité.
Non, je pense aussi on peut quand même aussi dire qu'on a beaucoup d'endroits où on a aussi choisi un peu stratégiquement où on va prendre de l'eau, et avec la proximité vers les montagnes, on peut aussi aller un peu plus vers l'amont, aller chercher l'eau. Si on regarde par exemple dans la région de Berne qui monte en amont, il a pas mal d'endroits où on a vraiment de l'eau exceptionnelle. Et aussi, on va aussi en Suisse, on boit une bonne partie de l'eau souterraine sans aucun traitement. Parce qu'on a beaucoup parlé du traitement, on peut tous faire en dépensant beaucoup d'argent, mais il faudra aussi s'assurer qu'on arrive continuer à pouvoir boire sans investir après des énormes sommes pour les stations de traitement. Alors, comme ça, c'est sûr, le traitement seul, ce n'est pas la solution. Alors, il faut garder cette ressource précieuse le plus propre possible.
Je vais juste rajouter une petite chose. Donc, je suis écotoxicologue. J'ai fait beaucoup de mes travaux de recherche, justement, essayer de fabriquer des essais qui permettaient, à l'aide donc d'organismes des différents maillons de la chaîne trophique qu'on peut trouver dans les écosystèmes, de produire des outils. Et vous savez, la plupart du temps, au laboratoire, on conserve les organismes, on les garde dans des élevages, des cultures. Sur lesquels on va travailler. Et figurez-vous que la plupart du temps, on utilise de l'eau du robinet pour les conserver et ils ne meurent pas. Donc, je crois que c'est une meilleure des preuves à ce niveau-là. Non, et puis figurez-vous que j'étais beaucoup à l'Institut Forel à côté de Versoix. Et donc on a monté des microcosmes à l'époque, donc des petites piscines, si vous voulez, où on mettait les organismes dedans et on alimentait en partie avec de l'eau du lac Léman. Et donc on n'a jamais observé d'effet, ou en tout cas nos références ont toujours été impeccables. Voilà. Je tenais à le souligner quand même, parce que là on est en train de partir aussi dans des considérations peut-être alarmistes, peut-être que non, il faudrait...
Oui, il y avait monsieur qui avait une question...
Oui, dans les propositions pour améliorer la situation qui n'est pas si alarmante finalement, mais est-ce qu'il n'y aurait pas la possibilité de rémunérer les propriétaires des terrains en fonction de du rôle à jouer de leur terrain dans la filtration de l'eau et de la qualité finalement, de la qualité de ce qu'ils mettent dedans et de ce qui justement... qui permettent de filtrer ou pas.
Oui, alors pour répondre à monsieur, il existe toute la législation des zones de protection, avec les zones S1, S2, etc. Et puis là, vous avez, sur l'endroit des captages, vous avez une protection absolue. Donc ça aussi était une révision fondamentale de l'environnement il y a 30, 40 ans qu'on a commencé, puis après on l'a encore amélioré. Donc il faut savoir que, par exemple, pour l'eau de Neuchâtel, que je connais bien, toutes les gorges de la Reuse sont en partie sous protection. Donc les sources des gorges Lareuses, à part, on tolère juste les élevages avec des bovins. Alors ça donne des matières fécales, mais celles-là sont traitées avec du chlore simplement. Et sinon, c'est absolument impossible de faire une usine, une station, une chose comme ça, dans les zones de protection. Donc parce ça, c'est assez bien fait, mais je pense que M. Studer pourrait peut-être préciser.
Excusez-moi. Oui, là, on parle de protection, justement, de législation. Mais ce n'est pas une des mesures d'incitation.
C'est obligatoire.
Mais je veux dire, c'est un service rendu finalement par les forêts ou le terrain. C'est un service rendu qui filtre l'eau et qui permet de rendre l'eau potable finalement.
Oui, mais vous avez...
On ne rémunère pas forcément les propriétaires.
Les champs avec les pesticides, les herbicides qu'on met, vous ne pouvez pas le faire autour d'une certaine zone autour de captage. Là, oui, mais... Si on voit qu'il y a encore des influences, on peut augmenter la zone de protection sans entrer dans le...
Mais c'est vrai qu'il y a encore une autre dimension dans la politique agricole, où en fait la législation sur la protection des eaux permet de subventionner des exploitations si elles sont d'accord de renoncer à des cultures ouvertes au profit de prairies vertes. Alors évidemment, à ce niveau-là, le rendement n'est pas le même. Et il y a un mécanisme entre l'environnement et l'agriculture chez nous en Suisse où en fait les paysans peuvent toucher une subvention par hectare s'ils sont d'accord justement de revoir leur culture pour éviter... Enfin, c'était principalement pour essayer de diminuer la teneur en nitrate dans les eaux souterraines. Donc on avait des endroits où il y avait plus de 40 mg de nitrate par... qu'est-ce que c'est par litre, sauf erreur. Et puis, le but environnemental des eaux souterraines était de descendre en dessous de 25 mg par litre. Et pour y arriver, c'est vrai que l'agriculture était prête à subventionner les exploitations qui jouaient le jeu. Partout où il s'agissait d'eau qui pouvait être captée pour devenir de l'eau potable. C'était une des conditions, c'était par la suite de faire de l'eau potable. Donc, il y a un certain nombre d'incitations qui sont mises en route, même si entre-temps, on s'est rendu compte que les nitrates n'étaient pas si dangereux. Mais bon, ça, c'est un autre débat.
Une toute petite, je n'ai pas entendu parler de nanoparticules ce soir. On en trouve dans des quantités de produits, sur les cheveux, pour tout quand on en a. Ça se retrouve forcément dans l'eau. C'est considéré comme des micropolluants. Est-ce que ça s'élimine facilement?
Alors, je crois que c'est une assez bonne question, effectivement.
Oui, alors écoutez, ce que je peux dire, c'est qu'en fait, au niveau de la Confédération, il y a aussi passablement de réflexion sur les nanoparticules, parce qu'en fait, là aussi, l'application de ces nanoparticules est très variée, ça peut être aussi bien dans les denrées alimentaires que dans d'autres choses. Pour l'instant, on essaye d'avoir des définitions assez claires pour savoir en gros comment est-ce qu'on va les caractériser et après faire la part des choses entre les nanoparticules qui posent vraiment des problèmes et les autres, parce qu'il y a aussi une quantité d'utilisation de ces nanoparticules où en fait on ne s'en rend pas forcément compte, mais déjà dans la vie de tous les jours on en consomme, et puis on en a dans les objets que l'on a à disposition sans que ça pose vraiment de grands problèmes. Donc là, on est au début des réflexions pour savoir exactement comment gérer cette problématique des nanoparticules.
Oui. Je vais compléter pour la partie environnementale. Grosse question sur les nanoparticules, parce que... au niveau de la recherche, en tout cas, la recherche plus dédiée aux écosystèmes et aux effets sur les organismes, on arrive à voir des choses au laboratoire très précises en termes d'effets, mais on est obligé de monter avec des doses astronomiques pour pouvoir avoir ces types d'effets au niveau cellulaire aussi. Et puis après, dès qu'on passe sur des systèmes un peu plus complexes, on est confronté au comportement de ces nanoparticules ou nanomatériaux, une fois qu'ils sont utilisés, et de recréer des scénarios d'exposition qui soient vraiment réalistes pour les organismes qui peuplent les écosystèmes. Et donc là, il y a encore un énorme travail, je pense, à faire. Mais ça, c'est mon point de vue. Le fait d'avoir discuté avec beaucoup de personnes qui travaillent sur ce type de micropolluants, si vous voulez, on peut les mettre dedans, mais je crois que c'est encore une classe à part.
Oui, Philippe.
Je veux juste encore ajouter un petit point à ce que vous venez de dire par ces zones de sécurité. Hein. Alors, je pense que ce concept en Suisse est vraiment effectivement assez bien. Et ça fonctionne très bien, par exemple, pour des bactéries. Mais juste le fait qu'on trouve des micropolluants là-dedans montre qu'on n'est pas 100% protégé. Alors moi, je pense quand même que c'est un peu dangereux de dire « Ok, on a une zone de protection, on n'a aucun problème ». Et juste du point de vue de la hydrodynamique, trouver ces zones de protection, ce n'est pas facile. Peut-être qu'il y a des chemins préférentiels qu'on ne connaît pas. Il faut une caractérisation du sous-sol. Ça dépend aussi des taux de précipitation, etc. Alors, c'est un très bon concept. Je suis d'accord avec vous, mais c'est pas fini à ce point-là.
Oui, monsieur.
Oui, ma question, c'est plutôt un problème purement politique. Dans le cadre de la ville du Locle, donc, au moment où on a constaté qu'il y avait une pollution, jusqu'à ce que la population soit au courant, les gens disent qu'ils étaient vraiment très, très étonnés. Le temps. Chaque année, en Suisse, on laissait les sirènes au mercredi, je ne sais plus quand. S'il y a un danger, là, tu as une attaque qui vient d'ailleurs. Mais pourquoi? Maintenant, ma question, elle est simple. Vous, les spécialistes, s'il y a un problème, ça se passe comment au niveau de la communication jusqu'à ce que le citoyen lambda soit au courant très rapidement pour pouvoir agir? Voilà.
Il y a peut-être des réponses derrière vous, peut-être monsieur de Viteos, directement concerné.
Alors, je vais juste un peu parler du cas du Locle. Donc, il y a eu une contamination. Donc, bon, ça fait 20 ans que je travaille dans l'eau et mon but, c'est de dire aux gens qu'il faut boire l'eau du robinet parce qu'elle est de bonne qualité et c'est 1000 fois plus écologique et je suis toujours convaincu de ça. Donc, on a eu cet accident au Locle, c'était une grande baffe. Mais il y a eu donc une infiltration d'eau après traitement. Et personne ne l'a observé, cette infiltration d'eau. Ça s'est passé entre mercredi et jeudi. Il y a eu un énorme orage. Et il y a eu une infiltration d'eau dans un réservoir d'eau traitée après traitement. Ça s'est passé de nuit et on n'a eu aucun signal de contamination. Tous nos appareils de mesure de qualité sont faits en amont et dans la chaîne de traitement. Et là, en tout temps, l'eau était de bonne qualité, donc on n'a eu aucune alarme préventive. Et c'est là que c'était un peu problématique. Donc, en toute bonne foi, en travaillant au plus près de notre conscience, tous les exploitants n'ont vraiment pas vu cette infiltration. Les premiers cas sont arrivés dans vendredi. Les gens sont allés à la pharmacie. Et puis, dans la nuit de vendredi à samedi, des gens sont allés à l'hôpital. Donc on a un service de piquet. Le service de piquet a été averti le samedi à 11h. Donc, et l'incident, après toutes les recherches que l'on a faites, s'est passé de la nuit de mercredi à jeudi. Donc ça, c'est le premier décalage qui s'explique. L'alarme est venue par le médecin cantonal qui a averti le service des eaux. Il y a eu des grandes discussions le samedi d'où vient cette contamination. Il y avait l'eau, ça aurait pu être de la nourriture ou autre chose. Et le temps que l'on voyait un peu que c'était l'eau, c'était déjà samedi après-midi. Réaction tout de suite, désinfecter l'eau, vidanger. Et puis après, c'est un problème bactériologique aussi. Donc on fait des analyses. Le temps de résultat des analyses, c'est 3 jours pour avoir vraiment tous les résultats. On a fait des analyses avec un système un peu plus spécifique. Et puis on a su le samedi après-midi que c'était vraiment un problème de l'eau. Et puis là, après, bon, les gens sont avertis. Mais c'est ce qui explique partiellement le décalage. Maintenant, mea culpa, où on peut toujours faire mieux. C'est vrai qu'après, comment avertir la population, la gestion de crise, je pense qu'on a fait au mieux. Il y a des critiques à faire, on est ouvert à toutes les critiques et je n'ai pas peur de pouvoir répondre aux questions. Mais voilà un petit peu concrètement sur le terrain comment ça s'est passé et l'explication du décalage. Et l'autre problème qu'on a eu, c'est après, en fait, les résultats après coup ont montré que dès samedi dimanche, l'eau était de nouveau potable, mais pour avoir confirmation, on l'a su le mercredi de la semaine suivante. Et pendant cette période, ou aussi pour retrouver d'où venait l'infiltration, il y a eu beaucoup de travail qui a été fait, parce que l'infiltration, on savait que ça s'est fait après le traitement. Ça pouvait être partout dans le réseau, ça pouvait être dans des réservoirs, dans des autres endroits. On a dû faire une liste pour trouver d'où c'est venu, et après on a remarqué que c'est sur le réservoir d'eau traitée, avec un trop-plein qui a eu une infiltration d'eau exceptionnelle, due à un orage exceptionnel. Et il y avait des mesures de protection, des clapets anti-retour qui n'ont pas résisté à cette venue d'eau. Donc, c'est difficile d'avertir tout de suite et d'informer. Et tant qu'on n'a pas de solution claire, le but de la communication, c'était des faits réels et pas des suppositions. Et c'est aussi, pendant 3 jours, on a cherché, on n'avait pas de cause réelle à dire à la population, donc on ne va pas communiquer sur des hypothèses où on n'a aucune réalité. Voilà. Non, il y a eu. Donc, dès qu'il y a eu le médecin cantonal ou qui a eu connaissance que ça venait de l'eau, il y a eu des affiches qui ont été placardées, il y a eu des informations. Et puis là, c'est clair que le distributeur d'eau travaille en collaboration avec le service cantonal, donc M. Girard, qui peut peut-être compléter ma réponse.
Bonsoir, messieurs, dames. Juste préciser, en fait, au départ, je venais après une journée de boulot m'informer sur un petit peu l'avenir des micropolluants, parce qu'effectivement, ça nous concerne. Et je ne pensais pas, justement, prendre la parole, parce que je voulais me la jouer aussi un petit peu. Les journées sont assez difficiles après ces pollutions successives. Alors, finalement, j'ai le micro, je le garde. Donc, quand même vous dire que dans le domaine de l'eau potable, dans notre canton et ailleurs, mais c'est des professionnels qui travaillent là. C'est des gars qui se lèvent tous les matins. Dans leur seul souci, c'est que vous soyez tranquille quand vous ouvrez votre robinet. C'est pas des touristes qui, dès qu'il y a un petit problème, on ne sait pas trop ce qu'il faut faire. Ces pollutions qu'on a eues, c'est des cas exceptionnels. Mais il faut savoir que dans le canton, cette année, on a le Loc, qui est effectivement un cas massu. Mais je veux dire, les grosses pollutions qu'on a connues, c'est quand il y a un mélange avec les eaux usées. Mais on peut avoir des micro-pollutions, légères pollutions qui peuvent être dues. On est en sous-sol karstique, vous êtes bien placé pour le préciser. Pour nous, on n'a pas d'effet filtrant. Donc, effectivement, on a plein de possibilités. On a des ultrafiltrations. C'est clair que l'ultrafiltration, c'est génial. Bon, c'est cher, mais ce n'est pas adaptable partout non plus, parce qu'une eau trop turbide, ça pose des problèmes de colmatage. Donc, pour dire, je peux vous affirmer que dans le canton, c'est suivi. Il y a le travail déjà qui est fait par le domaine de l'autocontrôle. Donc, chaque distributeur est tenu à l'autocontrôle. Ça sous-entend des contrôles microbiologiques, en tout cas hebdomadaires. Ça implique aussi des analyses chimiques, 1 à 2 fois par année, histoire de suivre un peu l'évolution ambiante des environs. Le canton prend par exemple à sa charge d'autres analyses, par exemple les pesticides. Par exemple, il faut aussi savoir qu'on a fait des analyses récemment, en 2014, sur la radioactivité, parce qu'on entendait un petit peu des soucis par rapport à ça. On avait quelques cas où on pouvait suspecter des problèmes de biphénol A, donc de perturbateurs endocriniens. On a fait une campagne sur les perturbateurs endocriniens. D'ailleurs, on a fait des parutions dans la presse. On a eu un souci dans une maison privée d'éventuellement présence d'hormones dans les eaux. On a fait des campagnes dans les eaux, on a surveillé les eaux du canton et on n'a pas eu de problème. Donc je veux dire, on n'est pas les bras croisés, on fait vraiment ce qu'il y a à faire. Et après, c'est des cas malheureux. La pollution du Locle, je dis malheureusement, j'étais en vacances, parce que c'est vrai qu'on est malgré tout dans le domaine de l'eau, c'est une équipe et on aime bien aussi être présent quand on a un peu des coups durs. Mais à mon retour, on a les inspecter parce que cette installation, évidemment, nous, on les inspecte et elles sont tout à fait aux normes. C'est juste qu'il faut s'y mettre des limites et jusqu'à ce jour, je ne voyais pas l'utilité de commencer dans l'inspection des eaux potables, de commencer de s'occuper des eaux usées parce que c'est bien ce qui s'est passé, en fait. Et c'est un cas exceptionnel. 60 mm en 90 minutes, c'est 20, 30, 40 cm d'eau dans les rues. On ne s'imagine pas. Pour situer le contexte, la personne qui est responsable de ça, elle est en train d'arroser dans son jardin parce qu'elle habitait dans le bas du canton. Donc c'est quelque chose de hyper violent. Et quand le problème, c'est clair, on a deux réservoirs d'eau traitée. D'accord. Quand on a des réservoirs, il faut s'occuper de trop-plein. En cas de dysfonctionnement, si on continue à produire de l'eau, il faut qu'elle s'arrête. Donc on a des mesures quand même de sonde, de pression qui déterminent le niveau. Mais au cas où, la loi des emmerdements faisant que, eh ben, il faut un trop-plein. Mais comme ces trop-pleins-là, l'eau n'est pas en charge, c'est juste comme si vous avez votre baignoire qui déborde, l'eau n'est pas chargée. Donc si on met ce qu'on appelle, nous, des clapets en tire-tour, il n'y a pas la pression suffisante pour le faire fonctionner. Donc c'est simplement un clapet en tire-rongeur, parce que ce trop-plein vient dans une chambre de 2 mètres sur 1 mètre. Ça fait déjà pas mal de flotte qu'on peut éliminer par le trop-plein. Puis dans cette chambre, à peu près 1 mètre de hauteur, il y a encore un trop-plein qui part dans l'écoulement à l'époque qui était de l'eau claire. Voilà. Donc, après coup, avec les années, ça s'est transformé eau claire en eau mixte. Voilà. Et puis, il y a eu cette telle quantité d'eau que l'eau, en fait, elle a refoulé. Parce que tout ça, pour ceux qui connaissent un peu, ça s'éliminait dans le biais. Donc, ça a complètement saturé. L'eau est remontée avec une pression vraiment importante. Donc, c'est revenu par le canal. C'est revenu dans la chambre. C'est monté dans la chambre. Ça a soulevé le clapet. Et on a à peu près 3 mètres cubes de flotte polluée d'eau mixte qui est entrée dans les réservoirs. Et c'est vrai que c'était difficile à repérer. Puis en fait, cette pollution, elle était perverse parce que c'est venu une vague. C'est-à-dire que c'était quasi dans l'eau comme traité. Et depuis là, avec le système de pompage, on peut alimenter directement soit le réseau de la ville ou monter dans les deux réservoirs de tête. Et c'est ce qui s'est fait. Donc il y a une vague qui est arrivée. Et au niveau des analyses, on n'a jamais eu, au niveau de la microbiologie, par exemple, des teneurs énormes parce que la vague était déjà passée. Et le cas qui est ressorti, en fait, c'est... Bon, on parle souvent de colis d'entéro, mais là, ce qui s'est passé, c'est la présence de norovirus. Et ça, on les trouve, en fait, dans les eaux de steppe. Et puis, il faut aussi savoir
Il y a une version exécutif un peu plus court, peut-être.
Ben, écoutez, on peut simplifier, on peut plus court, c'est ne rien dire. Puis du moment qu'on essaye de l'expliquer, on essaie de faire peut-être le tour, parce que c'est quelque chose de quand même de complexe. Oui. Donc, je peux déjà m'arrêter là en disant que effectivement, c'est un cas exceptionnel, mais votre réseau dans le canton en tout cas est géré par des professionnels et en fait. Tout est bien surveillé, on peut dire relativement sous contrôle.
Je crois que vous nous avez bien rassurés par le discours. En tout cas, c'était très bien argumenté. On vous remercie beaucoup. Et on arrive effectivement au terme de cette discussion. Je voudrais encore remercier tous les intervenants qui sont venus ici s'exprimer à la table et les intervenants dans la salle. Merci encore pour ces leçons sur l'eau potable dans notre beau canton. Vous dire encore que le prochain café scientifique se tiendra ici même le 21 octobre et on abordera un tout autre sujet. Ce sera un sujet de société et de droit. Nous parlerons de... Ah, ces jeunes. Vous verrez que c'est une question éternelle où on a toujours critiqué les jeunes et les vieux ont toujours critiqué les jeunes et ça depuis 2500 ans au moins. Voilà. Et encore une chose, je vous mettrai à disposition quelques dépliants ici au sujet de ces 3 jours de bicentenaire de l'Académie suisse des sciences naturelles. Vous verrez dans le détail quelques animations qui sont proposées dans la ville de Neuchâtel, des animations auxquelles participe aussi encore l'Université de Neuchâtel. Vous aurez des visites guidées du jardin de permaculture à Unimaille. Vous aurez au jardin botanique des démonstrations de photosynthèse. Voilà. Il y a aussi au centre du Durenmat des collègues qui organisent des observations de ciel étoilé. De quoi ravir les yeux et les oreilles autour de la science, près de chez vous, durant ces quelques jours et jusqu'au week-end. Merci beaucoup de votre attention et au prochain Café scientifique. Bonsoir. Et à tout seigneur, tout honneur, encore un grand merci à Roland Hamsler pour sa fidélité depuis 10 ans aux manettes qui nous assure toujours un son impeccable et un enregistrement de nos cafés scientifiques. Merci à lui.